Bonsoir. Comment commencer? Aujourd'hui, c'est la dernière séance de notre séminaire pour l'année, hein, notre séminaire école. Et donc, on a le plaisir d'accueillir nos collègues Marie-Josée Latour, psychanalyste à Tarbes, et Armando Cote, psychanalyste à Paris. Donc, on va commencer avec le texte de Marie-Josée. Le titre, c'est « La parole publique du psychanalyste ».
Bonsoir, c'est bon? Alors, pour proposer une intervention lors de la dernière séquence de l'année a un effet, pour moi en tout cas, un peu paradoxal. Puisque d'un côté, il y a un effet d'inhibition. Là, c'est bon? Oui. Donc, d'un côté, un effet d'inhibition, puisque. Comment prétendre encore trouver à redire après les interventions des collègues qui nous ont précédés sur cette courte phrase, l'inconscience et la politique, qui a fait donc l'objet des 7 séances précédentes, 14 interventions que j'ai le plaisir de lire grâce à l'équipe éventuelle et d'écouter d'ailleurs grâce aux soins de quelques. Donc ça, c'est le premier côté inhibiteur. Et puis, il y a un côté, un autre effet d'élargissement, si on peut dire ça comme ça, car on est en quelque sorte un peu dégagé de tout le travail didactique et épistémique qu'ont fait nos collègues en amont, extraire les concepts, situer les thèmes, situer la citation dans le séminaire, situer le séminaire dans l'enseignement de Lacan, etc. Donc, cet effet d'élargissement ouvre en fait un large champ de perspective quant à la façon de présenter ce qu'on aura bien pu laisser résonner de cette proposition de travail. Donc, les associations qui me sont venues lors de la proposition d'intervenir à ce séminaire, elles étaient peu nombreuses, inconscient, psychanalyse, parole, politique, public, discours. Donc, de la concaténation de ces solutions, dans l'actualité de notre prochaine rencontre à Barcelone, et dans le souci de la présence de la psychanalyse dans le monde, a surgi donc cette question autour de la parole publique du psychanalyste, qui évidemment n'est pas à confondre avec la parole de tel ou tel psychanalyste. À parler publiquement, ce qui ne manque pas de faire l'occasion. Donc, parole publique du psychanalyste qui serait a priori opposée, ou en tout cas de notre ordre, que la parole du psychanalyste dans la cure. Ceci dit, j'espère avoir bien entendu la mise en garde de Sylvie Escobaré dans une intervention ici même, quant à la nécessité de ne pas confondre, vous pouvez relire son intervention mondiale actuelle, la nécessité de ne pas confondre la politique, apostrophe, de la psychanalyse avec la politique comme définitoire de l'inconscient. Et c'est un peu ça qui m'a orientée pour essayer justement d'interroger ce qu'il en est de la parole publique du psychanalyste en écho à cette définition-là de l'inconscient. Donc, l'inconscience et la politique, est-ce que c'est une définition? Est-ce que c'est un vecteur? Est-ce que c'est une thèse? Il me semble que chacun des collègues qui nous ont précédés a argumenté sa lecture. Et il y a dans cette courte phrase quelque chose qui tient de la formule. Ce qui vient, une formule, finalement, c'est ce qui vient en quelque sorte épingler un discours. Non pas le résumé, mais plutôt en proposer une condensation qui suscite le désir d'en savoir plus. Et il me semble que ce pourrait être là la visée de la parole publique du psychanalyste. Lacan évoquait dans son petit discours au psychiatre à Sainte-Anne le caractère, d'une part, il évoquait le caractère incompréhensible des formules, par définition, donc, nécessite un travail d'élucidation, et c'est précisément ça qui les rend intéressantes. Et d'autre part, disait-il, si elles fonctionnent, ces formules, c'est davantage comme éclairage indirect que comme commentaire ou explication. Donc, à ces caractéristiques, donc, Lacan ajoutait une mise en garde concernant ses propres formules. Ne croyez pas, disait-il, que tant que je vivrai, je ne pourrai prendre aucune formule comme définitive. J'ai encore d'autres petits trucs dans mon sac à malice. Chacun donc de ceux qui sont intervenus à ce séminaire l'ont certainement éprouvé. Un texte, ce n'est pas du mal. Donc un texte, ce n'est pas du marbre, plutôt quelques brindilles, quelques brins d'oreilles, d'imaginaire et de symbolique, mis ensemble pour faire une petite forme. Une petite forme qui peut devenir une lanterne, à condition d'y mettre du sien. Mais y mettre du sien, ce n'est pas forcément équivalent à y ajouter son grain de sel. C'est la difficulté. Comment déplier une formule sans la complémenter de choses qui n'y sont pas? C'est difficile. Comment, finalement, garder aux guillemets leur allure de petites oreilles de lièvre que leur attribuait Paul Celan dans Les Méridiens? Et alors, si on leur garde cette allure-là, de petites oreilles de lièvre, aux guillemets, ce devrait être pas tout à fait sans peur que l'on userait de ce qui se dresse pourtant au-dessus de soi pour donner une chance d'écouter ce qui vient de la démon. Je paraphrase posément. Donc, à la relecture de l'ensemble des arguments, se dessinent, à mon avis, trois options. L'une explore la... tous mes collègues qui nous ont précédés. L'une explore la multiplicité des entrées possibles en y mettant en tension les entrées côté émotion et les entrées côté politique. Une autre option a été, me semble-t-il, de tenter un pas de côté en déplaçant chacun des termes de l'inconscient à la psychanalyse, au sujet, aux symptômes, de la politique à la logique, à l'éthique, à la stratégie, à la clinique. Il me semble encore une autre option a été d'essayer de cerner les conséquences de ce pas que fait Lacan avec cette nouvelle définition de l'inconscient. L'inconscient par l'être. Beaucoup de la théorie psychanalytique est donc convoquée dans cette formule qui nous... la parole au discours et aux liens sociaux dans l'urgence imposée par les discours du capitalisme. Paraphrase l'argument qu'avait écrit sur le solaire pour tout le séminaire. Donc, à l'heure où se déploie une plainte réitérée quant au peu de cas que le monde actuel ferait de la psychanalyse, mais que par ailleurs plus personne ne s'émeut de la présence de l'inconscient, puisque le monde a plus de nos hommes politiques épinglé lui aussi, et donne à l'oser. Il me semblait intéressant de situer justement l'opinion de la parole publique du psychanalyste dans la perspective de cette remarque de Lacan que Marc Strauss a rappelé dans son intervention ici même. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas invité qu'on est absent. C'est ce que Lacan avait répondu au journaliste de France Culture qui lui faisait remarquer qu'il n'était pas invité au 28e congrès de l'IPA. Donc Freud, dans la situation exceptionnelle qui était la sienne, a soutenu, lui, une parole publique qui a porté sur la scène du monde le désordre de ce savoir particulier qu'est l'inconscient. Dans sa première leçon d'introduction à la psychanalyse, qu'il donna, la première des leçons qu'il donna entre 1915 et 1917 dans un amphithéâtre d'une clinique, de la clinique psychiatrique de l'hôpital de Vienne, Freud commence ainsi. « Mesdames et messieurs, je ne sais pas ce que vous pouvez savoir les uns et les autres sur la psychanalyse, par vos lectures ou par oui dire. Mais je suis tenu par l'intitulé annoncé, leçon d'introduction, de vous traiter comme si vous ne saviez rien. » Donc là, on a déjà un aspect de la question de la parole publique du psychanalyste. La parole psychanalyste serait-elle alors une espèce de veille contre le oui-dire, une sorte de corrigé en ligne de l'opinion publique sur la psychanalyse? Je ne pense pas que ça soit question, mais il me s'agit, à mon avis, il s'agirait plutôt que cette parole publique fasse résonner le silence du dire au cœur de la cure. C'est pas simple de faire résonner le silence au cœur de la cure. Freud poursuivait sa leçon en proposant d'exposer des imperfections qui s'attachent nécessairement à l'enseignement de la psychanalyse et les difficultés qui s'opposent à l'acquisition d'un jugement propre. Donc, déjà, pour Freud, la psychanalyse ne se transmet pas. Il n'y a pas donc une bonne façon de la transmettre. L'application ou le savoir-faire n'ont rien à voir avec cet impossible dont Frédéric Peillon rappelait justement cet impossible qu'il était au fondement de chaque discours. C'est cela qui se transmet, soutenir l'impossibilité de la transmission, et qui nous permet de ne pas nous inquiéter de l'assurance d'un succès insuffisant, comme nous l'a suggéré François Thérard dans le séminaire ici. Alors, l'inconscient, c'est la politique, n'est-ce pas une façon de rappeler que la parole est le nerf de la chose analytique? Lacan y insistera donc avec sa nouvelle définition de l'inconscient par l'être, comme l'a rappelé Poët Soulaire dans son intervention au séminaire. Mais revenons un peu en arrière. Qu'est-ce que la parole? Dans le séminaire sur les psychoses, donc je suis revenue très arrière, Lacan pose la question en prenant soin de la distinguer d'un enregistrement de langage. Du coup, dit-il, parler essentiellement, c'est avant tout parler à d'autres. Cela paraît simple, mais avoir à le rappeler n'en signale-t-il pas une peu d'évidence? À quels autres s'adresse le psychanalyste quand il parle en dehors de la cure? Cette adresse, en tout cas, inclut, du fait même de la parole, la dimension de la tromperie, ou disons, plus élégamment, comme le fait Lacan, du mirage, c'est-à-dire de l'inconnu dans l'altérité de l'autre, qui laisse une certaine marge à la réception du message. La parole est donc à la fois aliénante et séparatrice. Les parlants sont séparés par ceux qui les unissent. Du coup, je suis revenue à ce passage que Patricia Dahan avait signalé dans la première intervention de ce séminaire, beaucoup de collègues ont repris. C'est la phrase qui suit notre formule d'inconscience et la politique. Donc, nous savons que l'essentiel de l'enseignement de Lacan a été oral. Le lire et le relire, c'est ne pas perdre de vue ce qui revient à sa parole et donc à son silence. Donc, si nous lisons la phrase qui suit d'inconscient, c'est la politique. Si nous lisons la suite, ça donne « je veux dire », point, « je veux dire », enfin, point. Voilà, il parle là, quand il dit ça. Je veux dire que ce qui lie les hommes entre eux est ce qui les oppose. Et si vous me permettez d'accentuer ici un peu le silence, la conjonction de coordination est pourrait glisser à la coupure être. Ce qui lie les hommes entre eux est ce qui les oppose. La politique définitoire de l'inconscient, n'est-ce pas cette simultanéité? Et ce, conformément d'ailleurs à la logique de la petite notation clinique, petite si on veut, qui suit dans le texte à propos du séminaire, puisque Lacan évoque tout de suite après que pour le névrosé, si être rejeté peut être essentiel, c'est qu'il y a eu la nécessité préalable à son insu de, enfin, insu de lui, nécessité préalable insu de lui, qu'il s'offre. Si être rejeté, c'est essentiel, c'est c'est qu'il y a eu cette nécessité-là préalable, même s'il ne la connaît pas. Donc nous savons également que Lacan n'a pas ménagé son temps et sa peine pour attirer l'attention sur ce qu'il avait à dire en prenant en compte cette dimension de l'adresse. Discours, allocution, réponse, adresse, impromptu, interview, entretien, déclaration, autant de signifiants qu'il a utilisés pour nommer ses interventions. Donc en même temps qu'il prend soin de situer ses interventions par rapport à l'adresse dans leur dénomination même, il subvertit, à mon avis, la définition de l'adresse. Là où l'adresse, on pourrait croire que l'adresse consiste simplement dans le fait de parler à son auditoire, Lacan y inclut l'effet de cette adresse. C'est dans Télévision qu'il écrit ceci. Il arrive, je m'adresse à eux, aux psychanalystes, non que je leur parle, mais que je parle d'eux. Ne serait-ce que pour les troubler. Lacan donc s'adresse aux psychanalystes, en leur parlant d'eux, il entend les réveiller, voire les apprivoiser, pour leur parler de l'impossibilité de la position de l'analyste. Donc j'insiste pour souligner la parole. Donc, pourquoi ? Puisque c'est vraiment notre point, il explique ainsi à son auditoire à Milan, et l'auditoire, ce n'est pas l'éditoire, précise-t-il, que ses écrits n'ont jamais été faits pour remplacer son enseignement. Ils en sont une trace, certes publique, une trace condensée, certes publique, mais qui n'est pas forcément lisible par ceux qui n'ont pas idée du contexte de son séminaire. Public, ce n'est pas vulgaire. Vulgaire, c'est connu de tous. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que c'est public, puisque justement, c'est une notion difficile. Finalement, Lacan trouvait que la publication des écrits était une très mauvaise façon, je cite en somme, de rassembler un public. Il n'y a pas vraiment... Cette notion de public donc est difficile. Il poursuit, je vais me risquer à rappeler que lors de cette publication, dont il parle à nos collègues italiens, je me suis livrée au jeu de mots de l'appeler poubellication. Je vois qu'il y a des gens, dit-il, qui savent ce que c'est le mot poubelle. Il y a une trop grande confusion, en effet, de nos jours, poursuit-il, entre ce qui fait public et ce qui fait poubelle. Ça ne s'est pas démenti, hein ? On est d'accord. Et il poursuit, il ne faut pas confondre la poubelle avec le pubis. Ce n'est pas du tout pareil. Et le pubis a beaucoup de rapports avec la naissance du mot public, hein, puisque c'était un temps, le temps de la Rome antique, où le public, ce n'était pas du tout la même chose, je paraphrase Lacan, que le déballage du privé, et où, quand on passait au public, on savait que c'était un dévoilement. Mais maintenant, ça ne dévoile plus rien, puisque tout est dévoilé. Donc Lacan fait référence à cette étymologie de public, hybride de poil et de peuple. Il y a un article d'Émile Benveniste, qui parle à mettre la main dessus, qui s'appelle « Pubes et Publicus », que certainement Lacan... On peut lui faire confiance, c'était un lecteur, il se lisait l'un l'autre. Donc pubes a servi à nommer la population, Rome antique, a servi à nommer la population mâle, adulte, en âge de porter les armes et de prendre part aux délibérations des assemblées, qui tendent donc ainsi la sphère privée de la famille pour prendre part aux affaires publiques. D'où l'étymologie de pubes, le poil du peuple. Donc, qu'est-ce qui est dévoilé, revenons à la psychanalyse, quand la psychanalyse passe au public ? Que sont les affaires publiques du psychanalyste ? N'est-ce pas la tâche délicate qui fait l'enjeu de la passe et du travail des analystes de l'ego ? L'inconscient, c'est la politique, ne ramène-t-il pas finalement les questions sexuelles au cœur de la cité ? comment exploiter devant l'opinion publique sans obscénité les communications privées. En relisant Malaise dans la civilisation, je me suis rendu compte que c'était un souci de cet ordre qui en faisait l'incipit. Freud commence, hein, Freud écrirait Malaise dans la civilisation pour répondre à une lettre de Romain Rolland qu'il lui avait écrite suite à la publication de l'avenir d'une illusion. Et Romain Rolland dit qu'à son avis, il n'a pas assez parlé là du sentiment océanique, il s'en suit un échange. Et au moment où Freud commence à écrire, il se demande s'il a vraiment le droit d'exploiter publiquement cette communication privée de Romain Rolland. Et Romain Rolland, oui. Donc il s'en inquiète au début, et Romain Rolland lui dit que oui, il donne son accord. Donc, finalement, Freud, même s'il nous a fallu de temps pour l'extraire, la découverte de Freud, c'est que dans le moindre acte de parole est impliqué une jouissance. Lacan a rappelé donc à plusieurs reprises le lien manifeste du public avec ce qui émerge de ce qui est honteux. David Bernard a beaucoup travaillé la question. Et finalement, l'analyse est bien ce qui se distingue de cette irruption du privé, soit des affaires sexuelles, dans le public. Donc cette formulation, là, on la trouve dans un texte comme Lacan a prononcé lors de clôture du journal Cartel en 1975. On définit cette, le privé des affaires sexuelles. Et la psychanalyse, hein, c'est ce qui veut bien faire irruption, c'est ce qui fait que ce privé vient dans le public. Cela nous rend sensible quand même à quel point l'articulation du dedans et du dehors, du privé et du public, du commun et du singulier, quand on prend en compte l'hypothèse de l'inconscient, s'inscrit sur une bande Möbius. Il en va certainement de même pour les différents aspects de la parole publique au regard de la psychanalyse. Alors, il y a bien sûr une parole publique sur l'analyse, celle que chaque analysant soutient quand il parle de son analyse, ou de celle des autres. Il y a par exemple les chroniques vidéo de Mardi Noir, psychanalyse toi la face. Je pense que beaucoup connaissent ces chroniques-là. Bon. Non, vous ne connaissez pas ça. Là, vous irez voir.
Pourquoi?
Vous irez voir, oui, puisque c'est sur YouTube. Donc, c'est une jeune femme qui est collègue de lui, on a parlé ensemble. C'est une jeune femme qui a fait une analyse et qui, en se maquillant, donc elle est au saut du lit, ça y est, ça vous dit quelque chose, en se maquillant, elle s'attaque à un des concepts de la psychanalyse, avec beaucoup de. Plus ou moins de pertinence, beaucoup d'humour. Le réel, le génétique, la finalité, elle s'appelle. Il y a un nom qui me vient, mais je ne suis pas sûre que ce soit le sien, alors je préfère ne pas le dire pour pas chez personne. Bon, en fait, si vous tapez Mardi Noir, psychanalyse toi la face, vous verrez tout de suite vous allez tomber sur elle, parce qu'elle a beaucoup de succès, en quelque sorte. Alors. Justement, certains y voient, pour en avoir parlé avec d'autres et entendu parler, certains voient dans ce genre de manifestation quelque chose qui serait de l'ordre de la profanation. Mais justement, hein, ne devrions-nous pas nous réjouir de cette tentative de restituer. Elisabeth va nous faire une programmation en direct.
Non, non, surtout.
Est-ce qu'on ne devrait pas se réjouir de cette tentative de restituer un usage commun, voire laïque, au concept de la psychanalyse, avec des dangers et des limites que ça comporte, bien sûr. Enfin, il me semble qu'il y aurait là quelque chose à creuser. Bon, je fais référence au texte de Jean-Jacques Gambin sur les profanations plurielles, justement. Donc, il y a également toutes les paroles publiques, hors séance, donc, des psychanalystes. Nos séminaires, nos journées ouvertes au public, la chaîne YouTube de l'EFCL, etc. À côté de toutes ces interventions, de toutes ces invitations formulées sur le mode du « tu peux savoir » cher à Lacan, on a vu apparaître dans notre agenda des annonces d'activités notifiant des prérequis. Une inscription préalable, une demande, une pratique clinique, etc. Et je me demande, à chaque fois que je vois quelque chose comme ça, que, mis à part le dispositif de la présentation de patients, qui requiert en effet un public choisi, quelle exclusion pourrait présider à ces propositions d'activité, comme nous nommons tous ces dispositifs de travail, où chacun a le loisir de s'expliquer avec la théorie et la clinique analytique. Nous savons le sort que Lacan a réservé au terme de privé. À partir du moment où on fait une analyse, il n'y a plus de vie privée. C'est dans l'alternative. N'y a-t-il pas dans la privatisation des lieux publics une dimension de confiscation ? Dans publicité, il y a public. Cet usage publicitaire, donc j'invite ce point de la rumeur, cet usage publicitaire de la parole est incontournable et il n'est pas question de s'en passer. Il y a aussi bien des paroles publiques sur la psychanalyse et sur les traces qu'elle laisse dans les autres discours qui donnent lieu à s'en réjouir. Ainsi, si vous allez actuellement sur le site de la Comédie française, grâce à l'entrée au répertoire de la pièce de Franck Bédocchi, L'éveil du printemps, que j'ai eu le plaisir de voir à côté de vous, par le pur hasard, à l'occasion du 100e anniversaire de la disparition de Bédocchi, vous pourrez lire à quel point Freud et Lacan sont présents dans ces pages lues par des centaines de milliers de personnes. Nous pouvons lire ceci par exemple sous la plume de Agathe Saint-Jean, conservatrice, archiviste de la Comédie française, écrite en 1891, puis créée à Berlin en 1906 par Max Reinhardt, la pièce, donc L'éveil du printemps, déclenche l'opprobre de la société prussienne de l'époque qui n'y voit que pure pornographie, ce qui lui vaut d'être largement censuré à sa création. Cette œuvre, poursuit-elle, ne trouve guère que Sigmund Freud pour la louer au milieu des déluges d'insultes qu'elle provoque. De la même façon, Clément Hervieux-Léger, qui est le metteur en scène de cette proposition, a donné un interview dans le monde et également vous le trouvez dans le site, signale le texte célèbre que cette pièce inspira à Lacan, la préface donc qu'il écrivit à la première édition de la traduction en français par François Vignon en 1974. Donc quand d'autres que les psychanalystes contribuent à susciter et soutenir l'intérêt pour la psychanalyse, voilà qui nous enchante. Mais quid de la parole publique du psychanalyste ? Bientôt arrêté, voici la parole d'Armando. Lacan ne parlait pas à la cantonade. Relisons le début de télévision. Il s'adresse essentiellement aux psychanalystes. Il s'adresse peut-être même seulement aux psychanalystes. Cependant, en fonction du lieu où il parle, du lieu dans lequel il parle, à la radio, à la télévision, dans la presse, il peut se trouver, dans le public, des personnes qui se trouvent intéressées par la psychanalyse, qui se trouvent intéressées par ce que Lacan a à dire, par ce que le psychanalyste a à dire, et qui ne peut se réduire au dit. Ainsi, Lacan peut dire qu'il n'y a pas de différence entre la télévision et le public auquel il parle depuis longtemps, son séminaire. Je redisais d'ailleurs pour autre chose, pour demain soir, un texte dans les lettres de l'école freudienne où Lacan parle de la télévision et il attribue la production de la télévision, donc c'est dans les années 60, 1965, par là, il attribue la production de la télévision à des gamins qu'il a psychanalysés autrefois. Je trouvais cette notation intéressante. Donc vous voyez à qui on doit la télévision. On a 10 ans du Lacan. Bon, au début du séminaire sur l'envers de la psychanalyse, Lacan interroge une fois de plus son assistance en ne manquant pas de relever l'équivoque du terme. Ce qu'il refera d'ailleurs en 78. Relever l'équivoque du terme d'assistance. 6 mois auparavant, donc, quand il commence l'envers du séminaire sur l'envers de la psychanalyse, l'école normale de supérieur qui l'accueillait depuis 1963 l'avait informé qu'elle cessait de mettre toute salle à sa disposition. C'est donc sur ce fond d'éviction que Lacan remercie au début du séminaire l'envers la faculté de droit qui l'accueille désormais. Et c'est dans le même temps qu'il remercie de droit, qu'il interroge cette assistance qui ne parle pas forcément à sa faveur, dit-il, mais qui, le plus souvent, parle à sa place. Alors, que la psychanalyse ait à jouer des coudes pour trouver une place n'est en rien nouveau, on ne devrait pas nous étonner plus que ça. Il ne faut certainement pas confondre cette difficulté structurale avec celle des psychanalystes à trouver une place. Ainsi, pour Lacan, ce qui justifie qu'ils disent quelque chose, c'est l'essence de cette manifestation, je le cite. Cette essence tient aux diverses assistances successives qu'il a attirées selon les lieux où il parlait. Le lieu, poursuit-il, a toujours eu son poids pour faire le style de ce que cette manifestation qui a rapport avec l'interprétation, soit avec le devoir de l'analyste. Si l'espace a depuis toujours une dimension politique, le lieu qui accueille la parole est déjà une interprétation. La rigolade à Sainte-Anne, l'enseignement à l'école normale supérieure, ENS, sont les premières lettres de l'enseignement, le statut à la faculté de droit, etc. Lacan a toujours souligné ça. Que l'assistance détermine à ce point l'interprétation n'indique-t-il pas la part que Lacan laisse au théâtre, c'est-à-dire à la mise en jeu du corps dans sa prise de parole. Et dans télévision, il situe le regard comme point de cette non-différence entre son séminaire et la télévision. Et ce regard est non pas ce à quoi il s'adresse, mais ce au nom de quoi il parle. Encore un renversement. Qu'est-ce que ça veut dire parler au nom d'un regard? Je ne sens pas pourquoi. Ou ce soir, en tout cas. En tout cas, c'est sûr que ce qui oriente Lacan n'est pas de parler pour que les idiots le comprennent. Il n'a jamais lâché l'affaire là-dessus. La parole publique, je vais conclure, la parole publique du psychanalyste n'est donc pas plus un sabir lacanien qu'une parole qui saurait se faire comprendre. Elle ne promet aucun entre-soi, plutôt vient-elle ouvrir, le déplore. Ne revient-il pas alors aux épars des assortis, de faire advenir une possible unité du dispersé qui ne convoque aucun communautarisme. N'est-ce pas l'enjeu de notre école, d'une école de psychanalyse? Si la parole publique du psychanalyste est une parole avertie de l'aliénation, ne lui reviendrait-il pas alors de faire signe d'une possible nouvelle expérience de la parole où le commun se